Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, Proust, ce nom porte en lui seul un puissant pouvoir d'évocation. Proust, c'est l'écrivain par excellence de Proust, c'est l'entreprise folle du roman Cathédrale Proust, c'est toujours une expérience de lecture à part pour ceux qui l'adulent comme pour ceux qui restent hermétiques à son univers. Dans l'histoire de la littérature, l'œuvre de Proust semble flotter comme un monde autosuffisant, unique et fascinant. S'agit-il d'un ovni littéraire ? Quel rapport entretient-il avec ses pairs ? Peut-on l'inscrire dans une lignée et lui donner une postérité quand tant d'auteurs contemporains s'en réclament ? Nous allons poser ces questions à Antoine Compagnon de l'Académie française. C'est l'un des meilleurs spécialistes de l'écrivain. Il a souvent travaillé lorsqu'il était professeur au Collège de France. Bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Alors Proust occupe-t-il une place à part, selon vous, dans l'imaginaire collectif ?
Ben, toutes les célébrations de cette année 2022 prouvent que quelque chose d'exceptionnel est en train de se produire. Quant à moi, je ne m'attendais pas à cette apothéose du centenaire de sa mort. Il y a une trentaine d'années, j'avais écrit un article dans les lieux de mémoire de Pierre Nora sur Proust comme lieu de mémoire de la France. En pensant qu'il avait en quelque sorte atteint son zénith, parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans l'accueil fait à l'œuvre de Proust depuis sa publication. Et j'ai été pris de court, moi-même, par ce qui s'est produit cette année. Trois expositions à Paris, bon, j'ai été mêlé à deux d'entre elles, un grand nombre de publications, le plus souvent de qualité, et des célébrations qui ne sont pas seulement françaises, puisqu'elles ont lieu dans, j'ai envie de dire, la plupart des pays du monde et dans toutes les langues. Il y a vraiment une universalité de Proust que nous pouvons mesurer cette année-ci.
Et comment expliquez-vous ce succès en 2022 ? Y a-t-il un lien particulier avec notre époque ?
Alors, c'est ça qui me déconcerte un peu. Hein. Il m'est souvent arrivé de dire que Proust avait traversé une sorte de purgatoire. Hein. Après la publication du Temps retrouvé en 1927, dans les années 30, dans les années 40, la mode n'était pas à Proust. C'était le temps de l'engagement, le temps... Proust n'est pas politique. Ce n'est pas une œuvre politique, ce n'est pas une œuvre militante. Donc il y a eu une certaine distance à l'égard de Proust. Et puis Proust, on lui reprochait son snobisme, ses fréquentations dans l'aristocratie. Il était plutôt du côté du conservatisme et de la réaction pendant tout ce temps-là. Et puis il y a un moment où il a été... où les modernes se sont emparés de Proust. Et ce n'est pas avant les années 50, en vérité, que Blanchot, Barthes, Butor se sont mis à écrire sur Proust, Bataille. Et à partir de ce moment-là, il est véritablement devenu, je ne dirais pas d'avant-garde, mais il est entré dans le camp des modernes. Et ils n'ont cessé de se réclamer de lui. Le nouveau roman s'est réclamé de Proust. Les avant-gardes des années 70, telles quelles, à partir d'un certain moment, se sont réclamés de Proust. Pas au début, mais ils ont suivi ce mouvement. Et cela fonctionne encore aujourd'hui. Alors, vous voyez, Proust est un écrivain... ambivalent. Il y a un certain temps, j'avais intitulé un livre « Proust entre deux siècles ». Proust est véritablement au tournant du 19e et du 20e siècle. Et il m'est aussi arrivé de dire que Proust, c'est à la fois Balzac et Blanchot. Et il y a un pied du côté de Balzac et un pied du côté de Blanchot. On a l'impression que c'est un grand écart, mais La recherche du temps perdu, c'est un grand écart entre Combray et Le temps retrouvé. Et on peut le lire comme on lit un roman de Balzac. Il y a beaucoup de Balzac. Proust était un lecteur.
Un défenseur même de Balzac.
Proust était un lecteur avide de Balzac. Il défend Balzac contre Sainte-Beuve, hein, qui n'a pas reconnu le génie de Balzac. Il défend Balzac, il défend Stendhal. Donc il est bien enraciné dans cette tradition française. Hein. Et puis en même temps, il est très soucieux de ce qui se fait en son temps, de sa propre modernité. Il est assez vigilant. Hein. On peut dire pas complètement. Bon, il n'a pas été sensible aux premiers rudiments du surréalisme ou à Apollinaire, mais au ballet russe, mais à Cocteau, mais à Paul Morand. Donc il y a cet écart. Bon, je pense que l'une des ressources de cette œuvre, c'est précisément cette équivocité qu'elle peut être lue à la fois par un lecteur de Balzac et par un lecteur de Blanchot.
Alors, ensemble, nous allons essayer de saisir cette singularité de Proust et puis de l'inscrire en même temps dans la longue histoire littéraire. Lui-même se réclame-t-il de filiations particulières sur le temps long? Je pense par exemple dans l'écriture du jeu.
Ben, il se réclame de Saint-Simon et de Madame de Sévigné. C'est évident que ce sont des références capitales. Et puis il y a Chateaubriand et les Mémoires d'Outre-Tombe. Donc il se réclame de cette, j'ai envie de dire, écriture familière du mémorialiste qui écrit à la première personne, ou comme Madame de Sévigné dans des lettres, dans une correspondance. Autrement dit, ce n'est pas le style relâché de ce qui serait aujourd'hui l'autofiction. Mais enfin, on peut dire que Proust est, d'une certaine manière, l'inventeur de ce que l'on a appelé dans la période récente l'autofiction. Non, il se réclame de cette tradition classique française. Bon, sans doute peut-on parler de Montaigne. Il n'y a pas énormément de références à Montaigne dans l'œuvre de Proust, mais Proust connaît bien Montaigne, notamment par l'école. Et Albert Thibaudet avait écrit un article dans les années 30 qui s'appelait « Le roman de Montaigne » pour montrer comment il y avait dans les essais les éléments qui annonçaient le roman moderne. Roman de formation, roman d'apprentissage, et il disait que ce roman s'était réalisé plus tard en France que dans d'autres traditions anglaises ou allemandes. Wilhelmmeister, c'est bien antérieur à La recherche du temps perdu. Mais au fond, qu'il y avait dans la première personne des essais, en puissance, le roman moderne, et le roman moderne exemplaire. Pour Thibaudet, à ce moment-là, c'était le roman de Proust. Moi, j'aime bien dire qu'il y a une parfaite continuité entre Montaigne et Proust, puisque ce sont deux auteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et qui, à mes yeux, d'une certaine façon, n'en font qu'un.
Et l'actualité nous fait un clin d'œil, puisque cette année, nous célébrons également les 450 ans du début de la rédaction des essais de Montaigne pour Chateaubriand. Il y a aussi cet aspect de l'œuvre monumentale qui fait écho à Proust.
Oui, alors pour Montaigne, je rappelle que le volume de la Pléiade que j'ai dirigé, qui a été publié il y a quelques mois, nous lui avons donné pour titre « Essai ». Proust essai, et il réunit le dossier du Contre Sainte-Beuve, tous les articles de Proust, les pastiches des mélanges. Donc, avec cette ambiguïté du terme d'essai, qui était chez Montaigne, puisque c'est lui qui a inventé le genre, et les essais, c'est l'expérience, c'est essayer quelque chose. Proust essaye, Proust n'a cessé d'essayer toute sa vie. Proust est un expérimentaliste. On pense qu'il est un théoricien, mais je crois que c'est surtout un expérimentaliste, comme Montaigne. Alors oui, Chateaubriand, évidemment, compte énormément pour lui, puisque d'une certaine façon, cette mémoire involontaire, qui est l'élément théorique de La recherche du temps perdu, il l'a trouvée Enfin, il en a trouvé une sorte de préfiguration dans les mémoires d'outre-tombe, comme chez Nerval ou comme chez Baudelaire. Donc, Proust est bien informé de toute cette tradition littéraire française et il s'inscrit, j'ai envie de dire, en continuité avec cette tradition. Sans oublier tout ce qu'il doit à la littérature anglaise. Proust est un lecteur de George Eliot, de Ralph Waldo Emerson, américain, et il a trouvé chez ses auteurs beaucoup de ce qu'il a formé dans sa jeunesse. Et puis Ruskin, bien sûr.
Bien sûr, parce que Ruskin occupe une place vraiment à part, on a l'impression, dans son système de référence.
Oui, alors il a traduit Ruskin. Est-ce que Ruskin l'a marqué ? Je crois que Ruskin l'a marqué moins que quelqu'un comme Emerson, chez qui il a pris beaucoup plus d'éléments. Ruskin, il l'a traduit. Ce qui l'a intéressé chez Ruskin, c'est le rapport avec l'art médiéval, avec les cathédrales. Mais la pensée de Ruskin, il s'en est détaché, puisque bon, il a donné au rapport de Ruskin avec l'œuvre d'art le nom de ce qu'il appelle l'idolâtrie. Et il faut se détacher de cette idolâtrie qui est en quelque sorte une paralysie dans le culte de l'art, dans la confusion de l'art et de la vie. Donc oui, il y a eu ce moment ruskinien, mais c'est plutôt un contre-Ruskin qu'un contre-Sainte-Beuve, la recherche du temps perdu.
Justement, est-ce qu'on peut parler de ces rapports avec Sainte-Beuve qui sont peut-être plus complexes qu'il n'y paraît ? Parce que ce titre contre-Sainte-Beuve laisse croire qu'il y a vraiment une opposition binaire entre les deux hommes et leur approche d'une œuvre littéraire. Faut-il ou non accorder de l'importance à la biographie de son auteur, par exemple ? La réalité, vous le dites, est peut-être plus subtil.
Écoutez, je crois que Proust a eu besoin de cette béquille à un moment. Contre Sainte-Beuve, c'est une sorte d'échafaudage. Il a utilisé à deux reprises ce titre et il s'est opposé à Sainte-Beuve. Bon, on peut dire avec un peu de mauvaise foi, parce que ce n'était pas nouveau de faire le procès de Sainte-Beuve au début du XXe siècle et d'attaquer cette méthode disons, biographique, qui s'est servi de la vie pour parler des œuvres, et il n'a pas véritablement parlé des œuvres. Donc c'est un procès qui n'est pas nouveau, et Proust a eu besoin de cela, à un moment donné.
Pourquoi ?
Pour condamner l'intelligence et pour exalter la sensation. Donc les pages qui sont la préface de ce dossier Sainte-Beuve sont bien sûr fondamentales. Et puis alors, bon, il se détache de Sainte-Beuve puisque Sainte-Beuve a condamné et Balzac et Stendhal et Baudelaire et n'a pas compris la grandeur d'un certain nombre de ses contemporains. Mais au-delà de cela, Sainte-Beuve n'est plus tellement présent dans la recherche du temps perdu. C'est pour ça que je dis que ça fait partie du souterrain. Ce qui compte, c'est tout de même l'œuvre. Et dans la recherche du temps perdu, Sainte-Beuve a disparu. Il n'y a plus que la marquise de Villeparisis qui incarne les travers de Sainte-Beuve et qui évoque son père qui avait fréquenté tous les écrivains de la génération de Sainte-Beuve et qui trouvait que Stendhal n'avait pas d'esprit dans les conversations à dîner et qui privilégiait, les causeurs dans les salons. Mais il y a beaucoup d'aspects de Sainte-Beuve qui ont pu marquer Proust. On peut repérer un certain nombre de, je dirais pas d'influences, mais d'échos, de remémorations de Sainte-Beuve. En particulier, il y a tout ce thème du du rayon. Le rayon, c'est un mot qui parcourt toute la recherche du temps perdu, depuis ces matinées où il y a un rayon de soleil sur le balcon, ce qui est vraiment un thème qui traverse toute la recherche du temps perdu, ces réveils dans Combré, dans Nom de pays, dans La prisonnière, tous ces réveils. Le rayon, c'est l'un des grands mots de Sainte-Beuve qui revient chez Proust tout le temps, quoi.
Vous avez évoqué Baudelaire, sur oui. lequel vous avez également beaucoup travaillé. Qu'est-ce qui intéresse Proust chez Baudelaire ?
Ce qui intéresse Proust chez Baudelaire, d'abord, ce sont les fleurs du mal, à l'exclusion de tout le reste. On ne connaît pas beaucoup le reste de l'œuvre de Baudelaire du temps de Proust, ni le spleen de Paris, ni la critique d'art. Alors, Proust s'intéressait à l'art, il aurait pu s'intéresser à la critique d'art de Baudelaire. Non, aucune trace qu'il l'ait connu. Ce sont les fleurs du mal. Et dans les fleurs du mal, ce qui l'intéresse, je crois, c'est le culte de la sensation et la liaison de la sensation et de la mémoire. C'est une poésie de la mémoire, aussi bien dans le spleen de Paris qu'auparavant, dans spleen et idéal. Donc voilà, c'est dans cette lignée Chateaubriand, Nerval, Baudelaire que Proust s'attache à Baudelaire. Proust est très baudelairien. Son article sur Baudelaire de la fin de sa vie dans la NRF, est l'un des plus beaux textes sur Baudelaire.
Est-ce qu'il y a aussi un rapport à la modernité qui peut l'intéresser chez Baudelaire avec ses ambivalences ?
Alors, est-ce qu'il s'intéresse à la modernité de Baudelaire ? Je dirais pas tellement, non. C'est plutôt le Baudelaire de la mémoire et de l'harmonie qui est le Baudelaire de Proust que celui que nous associons, mais là aussi, c'est probablement plus tardif, après Proust, ce privilège que nous avons accordé à ce thème de la modernité qui vient sans doute d'une sensibilité, justement, au Baudelaire critique d'art et au Baudelaire du spleen de Paris qui nous a fait relire autrement les fleurs du mal. Proust, c'est encore le Baudelaire des fleurs du mal et des fleurs du mal seul.
Par conséquent, la quête de la modernité n'est pas une ambition de Proust ?
Proust...
Pour lui-même.
Proust, je le disais, est très vigilant sur ce qui est en train de se faire en son temps. N'oublions pas qu'il a été proche d'une revue, Le Banquet, la Revue Blanche, qui sont, au moment de l'affaire Dreyfus, en gros, des périodiques d'avant-garde. Donc, il est sensible à ce qui représente l'avant-garde. Mais dans les années qui précèdent la guerre, 1913, c'est évidemment une très grande année pour l'avant-garde, pour le cubisme, pour Apollinaire, pour Blaise Cendrars. Et Proust ne va pas jusque-là. À ce moment-là, Proust, là où il est en contact avec ce qui est le plus contemporain, ce sont les ballets russes, c'est Cocteau, à ce moment-là. La modernité à laquelle il s'intéresse, on pourrait dire que c'est une modernité technique, c'est une modernité peut-être sociale aussi. On le sait, tous les instruments de la nouvelle techniques sont présents dans la recherche du temps perdu, du train à la voiture, à l'avion, à la bicyclette, même pour les jeunes filles, au téléphone, aux pneumatiques, aux petits bleus, tout est là. Mais il y a chez Proust assurément la volonté d'être lu, par le plus grand public. Donc il y a cette relation que tous les écrivains contemporains ont avec la presse, qui est importante chez Proust. Ce souci que Proust a de publier dans Le Figaro. Il y publie beaucoup de chroniques dans cette période. Il donne au Figaro des bonnes feuilles de Combré, dans l'année qui précède Combré. Donc c'est ça qu'il vise. Ce qui produira d'ailleurs des confusions, puisque ensuite, quand le roman sera publié, on pensera que c'est une autobiographie, puisqu'il a donné des chroniques à la première personne qui se retrouve dans Combré. Cela veut dire que le public qu'il vise, c'est bien celui du Figaro. Donc d'une j'ai envie de dire, une bourgeoisie éclairée plutôt qu'une avant-garde plus marginale dans la société contemporaine. Et c'est pourquoi je vous disais il y a un moment qu'il faudra tout de même plusieurs décennies avant que les plus modernes s'emparent de Proust.
Et justement, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils y ont trouvé chez Proust, a posteriori, de novateur ?
Alors, ce qu'ils y ont trouvé à partir des années 50, c'est beaucoup de choses. Par exemple, je crois qu'ont beaucoup compté les publications qui ont été faites par Bernard de Fallois au début des années 1950, Jean Santeuil, et puis le Contre Sainte-Beuve en 1952-1954. Et ça a montrer que Proust avait toujours écrit, toujours travaillé. Il y avait ce reproche qui courait jusque-là, que La recherche du temps perdu était écrite au fil de la plume, que c'était de la conversation, que c'était un peu du bavardage. Et puis alors là, on a découvert qu'il y avait d'immenses fondations, qu'il y avait eu ce roman abandonné, qui avait eu ces essais à la fois théoriques et narratifs laissés de côté. Et un certain nombre des contemporains ont réagi à cela. Je pensais à Bataille. Bataille était très surpris, par exemple, de découvrir dans Jean Santeuil le Proust de l'affaire Dreyfus, alors qu'on le voyait du côté plutôt anti-Dreyfusard, proche de l'aristocratie, cultivant les duchesses. Beaucoup de gens avaient réagi de manière hostile à la publication des volumes successifs de sa correspondance dans les années 30. Correspondance avec Robert de Montesquieu, correspondance avec Anna de Noailles. Tout ça donnait une image de Proust qui a déplu. Par exemple, à Albert Cohen. Albert Cohen avait été enthousiaste de Proust en lisant « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Et puis, lorsqu'il a lu la correspondance avec Anna de Noailles, il a été dégoûté de Proust. Et vous voyez que tout ça a pesé, je dirais, jusqu'à un moment donné des années 50, où toutes ces correspondances, il n'y en avait plus de nouvelles, puis tous ces témoins étaient morts. Donc, on pouvait vraiment aller au texte. Donc, il y avait cette profondeur du texte. Puis ensuite, il y a eu la découverte de tous les manuscrits, quand ils sont entrés à la Bibliothèque nationale dans les années 60, et c'était encore plus monumental, la compréhension de l'œuvre. Et puis il y a eu des lectures comme celle de beaucoup de critiques. Tous les critiques se sont mis à parler de Proust. Moi, je me souviens de mes 20 ans, c'est-à-dire le centenaire précédent, le centenaire de la naissance de Proust en 1971. 1971 a été une sorte d'apothéose moderne de Proust. Qui parlait de Proust ? Gilles Deleuze, Jean-Pierre Richard, Gérard Genette, Roland Barthes, Serge Dubrovski. On découvrait la sexualité dans La recherche du temps perdu. Tout ça était nouveau. Il y avait eu une sorte de couvercle posé sur Proust pendant des décennies, et soudain ce couvercle explosait, se soulevait, et ça bouillonnait sous le couvercle. Et ça, en 1971, quand j'avais 20 ans, c'était très frappant de voir que tout le monde s'emparait de Proust. Il me semble aussi qu'a beaucoup compté à ce moment-là, la contemporanéité avec Freud. C'était Freud pour tous, dans ces années 60. Tous les deux parlaient de l'enfance, de la sexualité, de l'inconscient, du sadisme, du masochisme. Il me semble qu'il y a eu une sorte d'enrichissement mutuel pour la génération du baby-boom, qui est la mienne, de la lecture de Freud et de la lecture de Proust. Et on les lisait ensemble et on allait de l'un à l'autre. Voilà, je crois que c'est tout ça qui a bouillonné à ce moment-là, qui a fait de Proust un moderne. Au fond, c'était des aspects de l'œuvre que l'on avait tu jusque-là. Et il m'est arrivé de dire que pendant un certain nombre de décennies, on a lu Proust, ou on a lu La recherche du temps perdu, en dépit du fait que Proust fut juifs et homosexuels, et qu'à partir d'un certain moment, dans les années 60-70, dirais-je, on a lu Proust au contraire, parce qu'il était juif et homosexuel, et que c'était cet aspect-là, donc ces aspects-là de l'œuvre qui intéressaient désormais.
Et sur la forme littéraire et le renouveau du roman ?
Alors, sur la forme littéraire et le renouveau du roman, je pense que Proust a d'abord, effrayé. C'est aussi pourquoi un certain nombre d'écrivains des années 30 ont été tellement hostiles à Proust, que ce soit Céline, qui est très sévère pour Proust, avec là aussi de l'antisémitisme dans les remarques, ou que ce soit Sartre, ou même Mauriac, qui reproche à Proust de ne pas parler de la question morale et d'ignorer la métaphysique, ni morale ni métaphysique chez Proust, mais il leur fait peur. Là aussi, c'est aussi l'une des raisons qui peut expliquer qu'il a fallu plusieurs générations pour s'approprier Proust. Alors, vous voyez, et Céline, et Mauriac, et Sartre réagissent contre Proust parce qu'il bouche le paysage, il occupe le roman. Et Sartre, d'une certaine façon, elle a conclu, le dénouement de la nausée est tout à fait proustien, avec la musique, c'est un air de jazz, c'est pas la sonate de Vinteuil, mais on a tout dans un air de jazz. Donc, pendant longtemps, Proust, je dirais, a bouché le paysage de la littérature. Là aussi, ça a changé, je dirais, avec le nouveau roman, c'est-à-dire dans les années 50. Il y avait ce refrain chez Robe Grillet qui répétait tout le temps que les critiques ne comprenaient pas le nouveau roman parce qu'ils n'avaient pas assimilé Proust. Et les nouveaux romanciers avaient encore une idée progressiste de la littérature, qu'il fallait aller plus loin, aller toujours plus loin. Si on n'allait pas plus loin, on reculait.
Dans
on
une
mourait.
Vision assez linéaire, finalement.
Que ce soit Nathalie Sarraute ou Alain Robrier, ils avaient cette vision-là de la littérature et ils considéraient qu'ils étaient au-delà de Proust et qu'on ne les comprenait pas parce qu'on n'avait pas assez lu et assimilé Proust. On en était encore à Zola, les lecteurs en étaient encore à Zola, notamment les critiques établies. Donc je crois que les nouveaux romanciers sont, je pense notamment à Robe Grillet et Nathalie Sarraute, qui ont vraiment parlé de cela. Bon, c'était des admirateurs de Proust et c'était deux écrivains qui se situaient d'emblée après Proust. On peut dire aussi que c'était le cas de Blanchot, que ce sera plus tard le cas de Philippe Solers, par exemple, et de tout le mouvement tel quel. Donc, tout cela qui avait une vision, en effet, linéaire, progressiste de la littérature, considérait qu'il fallait aller plus loin que Proust. Plus loin, ça voulait dire plus loin du point de vue de la narration, du point de vue de la textualité, comme on disait, de la destruction du personnage, de la destruction de l'intrigue, de l'absence de nom, puisqu'on ne connaît pas le nom du narrateur de La recherche du temps perdu. Voilà.
Alors nous allons parler tout à l'heure des écrivains contemporains qui arrivent après l'après, mais j'aimerais revenir sur quelques contemporains de Proust qui peut-être sont passés à côté du personnage d'une certaine façon. Je pense à Gide notamment. Est-ce qu'on peut parler d'un rendez-vous manqué, que cette première image de Proust finalement l'a bloqué, qu'il ne l'a jamais complètement dépassé, même s'il a fini par éditer bien sûr La recherche?
Oui, Proust a été publié par la Nouvelle Revue Française et Gide a dit que c'était leur plus grande erreur d'avoir refusé du côté de chez Swann. Bon, que dire à ce sujet ? Proust et Gide, c'était deux mondes. C'était la rive droite et la rive gauche. Et il n'y avait pas de plus grande division. C'était le Quartier Latin et la Plaine Monceau. C'était le protestantisme et à la fois la judéité et le catholicisme du côté de Proust. Donc il y avait vraiment deux mondes. Et lorsque la Nouvelle Revue Française a reçu le manuscrit du côté de chez Swann, qui s'appelait à l'époque « Le temps perdu », il faut le voir, ce manuscrit, c'est vraiment un magma, ce manuscrit. Tous les éditeurs l'ont refusé. À l'exposition qui a lieu à la BNF en ce moment, on expose la première page de ce qui s'appelle la dactylographie qui a été soumise aux éditeurs. Le premier tiers de la page est complètement biffé, réécrit à la main. Un éditeur qui reçoit ça...
Se dit, ça commence bien.
C'est très rébarbatif, ce manuscrit. Bon, l'ont-ils vraiment lu ? Bon, il y avait trop de différences. Et puis, n'oublions pas que les éditions de la Nouvelle Revue Française, c'était une toute petite maison. Ça venait d'être créé en 1909. Ils n'avaient pas publié de gros volumes de cette sorte jusque-là. Disons que techniquement, ils n'étaient sans doute même pas équipés pour publier ce genre de livre. Alors oui, c'est un rendez-vous manqué. Gide a lu... Ensuite, les livres, au fur et à mesure qu'ils paraissaient, mais il ne s'est pas précipité pour les lire. Le côté de Guermantes, il le lit, je crois, 6 mois après. Enfin, c'est pas son genre. Ce qu'il lit tout de suite, c'est Sodome et Gomorre, hein, la découverte de l'homosexualité. Ça l'intéresse, puisqu'il est l'auteur de Coridon. Et évidemment, il n'est pas du tout d'accord. Ce n'est pas du tout la même
vision.
Homosexualité que l'un et l'autre décrivent. L'un, c'est la pédérastie, et l'autre, c'est l'inversion. Ils n'utilisent pas le même nom pour désigner cet attachement à l'autre du même sexe. Donc, non, c'est un rendez-vous largement manqué. Celui de Proust et de Gide, même si Proust est publié par la NRF, mais il est publié par Gaston Gallimard, puisque c'est Gaston Gallimard et Jacques Rivière qui sont ses éditeurs et qui reprennent la maison après la guerre.
Et Colette ?
Alors Colette, le rendez-vous de Colette et Proust, je ne pense pas que ce soit un rendez-vous manqué. Alors ils se sont rencontrés...
Il y a une évolution dans le temps.
Ils se sont rencontrés dans les salons, lorsqu'ils avaient 20 ans, l'un et l'autre. Et là, en effet, Colette a réagi de manière très négative à la rencontre de Proust, puisqu'elle le considérait justement comme un jeune snob, un jeune mondain. Ils sont de la même génération. Elle est née en 73 et lui en 71. Ils débutent dans les salons parisiens en même temps. Et puis, lorsque Colette a lu « Du côté de chez Swann », qui lui a été recommandé par Louis de Robert, qui était un ami de Proust. C'est celui qui était l'un des premiers lecteurs du côté de chez Swann en 1912-1913. Donc elle l'a lu sur le conseil de Louis de Robert et elle a été très séduite, évidemment, par Combray et par la peinture du village, de la vie de province. Et il est indéniable que cela... Enfin, je crois qu'on ne peut pas nier que cela a infléchi son œuvre et que quand plus tard elle écrira La maison de Claudine ou Sido, ces textes qui portent sur le bourg de son enfance, sur Saint-Sauveur empuisé, c'est son Combray. Et quant à Proust, il écrit à Colette après avoir lu Mitsou. Donc, ils se rencontrent au lendemain de la guerre. Ils se rencontrent à partir de 1919. Ils se rencontrent, non pas physiquement, puisque Proust est tout de même assez isolé, mais ils s'apprécient bien mutuellement. Donc, Proust écrit des compliments à propos de Mitsou, qui l'a beaucoup touché. Moi, j'aime beaucoup Mitsou, donc je trouve que c'est l'une des plus belles petits romans, nouvelles de Colette. Et dans les dernières années de la vie de Proust, il y a évidemment une complicité. Alors, cette complicité, il faut sans doute aussi dire qu'entre 1919 et 1922, ils sont les deux grands écrivains contemporains. Donc, le fait qu'ils se congratulent réciproquement de la part de l'un comme de l'autre, je n'exclus pas qu'il y ait un peu de tactique littéraire. Donc, ils se reconnaissent mutuellement comme les deux grands écrivains contemporains. Ils ne se ressemblent pas En tout. Et puis je dis, les œuvres de Colette sur Saint-Sauveur, elles sont encore à venir. Mais Colette a indéniablement aimé l'œuvre de Proust et elle en parle plus tard, toujours avec beaucoup d'admiration.
Y a-t-il une connivence particulière entre Proust et les femmes écrivains ?
Écoutez, j'ai cité tout à l'heure Nathalie Sarraute. Hein. Elle est beaucoup plus marquée par Proust que Robbe-Grillet. Je citais tout à l'heure les deux. Mais il est indéniable que Nathalie Sarraute est l'un des écrivains, ou il faudrait dire l'une des écrivaines, mais l'un des écrivains les plus proustiens de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, est-ce que Colette, Sarraute, faudrait-il en citer d'autres ? Je ne sais pas. Je ne vois pas immédiatement comme je ne pense pas que Proust est beaucoup compté pour Marguerite Duras, par exemple. En tout cas, Colette et Sarraute, assurément, ce sont des proustiennes.
Dans le cahier de Lerne, publié l'année dernière, en 2021, sur Proust, auquel vous avez contribué, il y a un article qui fait un rapprochement entre Annie Ernaux et Proust, et c'était avant l'attribution du prix Nobel. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, Annie Ernaux, je l'ai invitée deux fois au Collège de France pour parler de Proust. Donc c'est une proustienne, oui, assurément. Alors maintenant, il y a quelques mois, il y avait une revue ou un journal qui avait pour titre « Proust est insupportable », dit Annie Ernaux. Alors j'ai aussitôt envoyé un mot à Annie Ernaux en disant « c'est pas tout à fait ce que vous disiez il y a quelques années lorsque vous veniez parler de Proust au Collège de France ». Et elle a convenu que c'était pas elle qui avait écrit ce titre « Proust est insupportable ». Alors Annie Ernaux aime beaucoup Proust. Moi, il y a certains livres d'Annie Ernaux que j'aime beaucoup, notamment le livre qui s'appelle « Les années », sur lequel j'ai écrit, et qui est un livre que je considère comme un livre assez proustien, notamment par le rôle que la mémoire y joue. Il est indéniable que Proust est une lecture qui a beaucoup compté pour Annie Ernaux. Alors, Annie Ernaux, elle réagit contre le personnage de Françoise et contre le traitement par Proust des domestiques, contre la vision de classe qui est celle de Proust. Mais je vous rappelais que ça, c'est un refrain très ancien. Dans les années 30, on reprochait à Proust d'avoir ignoré la question sociale. Le peuple n'est là qu'à travers les domestiques dans la recherche du temps perdu et avec beaucoup de préjugés relatifs au peuple. Donc Annie Ernaux est dérangée par le personnage de Françoise qui est l'incarnation du peuple dans la recherche du temps perdu, mais je suis convaincu qu'elle reste profondément et intensément proustienne malgré ce léger énervement.
Et aujourd'hui, voyez-vous d'autres héritiers de Proust ?
Parmi les écrivains contemporains, je pense qu'ils n'ont pas tous lu Proust, parce que Proust, c'est long et que la vie est courte. Et puis, Proust est peut-être de plus en plus difficile à lire à l'époque des tweets et des messages électroniques et des textos. Mais il y a assurément un certain nombre d'écrivains qui sont très proustiens. Je pense par exemple à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Philippe Lançon, qui avait écrit un très beau livre il y a quelques années intitulé « Le Lambeau » après l'attentat de Charlie Hebdo. Et c'était un livre sur sa blessure, ses soins, sa convalescence, ses opérations. Et c'était un livre dans lequel le fil proustien courait d'un bout à l'autre. Voilà un écrivain pour qui Proust compte et qu'il a bien lu. Il y en a un autre écrivain que j'ai invité au Collège de France, parce que je ferai un colloque en janvier au Collège de France pour terminer l'année, pour conclure cette année de célébration. Et j'ai également invité Yannick Enel, qui a parlé de Proust, qui a écrit sur Proust et qui est familier de cette œuvre et qui a été inspiré par cette œuvre. Il y a Nathalie Azoulay également, que j'ai invitée, et ils viendront parler de leur Proust dans ce colloque au Collège de France.
Pour finir, est-ce que nous avons une idée de l'image, de la trace que Proust voulait laisser à la postérité ?
Je ne pense pas que Proust disait, comme Stendhal, je serai lu dans 50 ans, je serai lu dans 100 ans, on me comprendra seulement dans 50 ans ou dans 100 ans, comme je vous le disais tout à l'heure. Il voulait être lu de ses contemporains. Proust était son propre attaché de presse. Ne l'oublions pas. Proust envoyait des échos, des articles. Il n'y avait pas vraiment d'attaché de presse à l'époque, mais Proust a été très soucieux lorsque ses romans étaient publiés, que ses romans soient diffusés. Il harcelait Gallimard pour que son œuvre soit en vente. Donc il était soucieux d'être lu par ses contemporains. Quant à la postérité, vous savez, il y a cette image à la mort de Bergotte. Lorsque l'écrivain Bergotte meurt devant le petit pan de mur jaune de Vermeer au musée du Jeu de Paume, il y a cette phrase extraordinaire, « Mort à jamais, qui peut le dire ?» au moment où il tombe mort au pied d'un canapé circulaire. Et puis il y a une page sur l'immortalité. Et Proust considère que un écrivain, un artiste, ne peut pas créer s'il ne renonce pas à l'idée que l'immortalité n'est pas possible. Il faut avoir une sorte de suspension de cette incrédulité pour pouvoir créer. Donc Proust avait un certain sens de l'immortalité de l'œuvre et de, comment dire, de la perpétuation de l'œuvre dans les œuvres ultérieures. Il y a cette très belle page que j'ai souvent commentée où, devant la dernière photographie de Baudelaire avant sa mort, il voit le poète éternel, Homère, Hugo, qui se réincarne à chaque génération dans le poète présent. Et c'est ça, ce sentiment d'immortalité que peut avoir Proust, c'est celui de la pérennité de la littérature. La littérature ne meurt jamais. C'est un peu comme les deux corps du roi de Kantorowicz. Le roi est mort, vive le roi. Le poète est mort, vive le poète. Il se réincarne à chaque génération. Il vit toujours. Et Proust vit dans les écrivains contemporains qui nous reconduisent à Proust. La littérature ne meurt jamais.
Eh bien, un grand merci à Antoine Compagnon. C'est une belle conclusion pour cette émission à l'occasion du centenaire de la disparition de Marcel Proust. Un centenaire, vous l'avez dit, qui rencontre un immense succès. Et vous pouvez retrouver d'autres émissions autour de Marcel Proust sur Canal Académie et sur le site de France Mémoire. Vous pouvez également visiter l'exposition qui se tient actuellement à la BNF, Marcel Proust, la fabrique de l'œuvre, et dont vous êtes l'un des commissaires, Antoine Compagnon. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup. Thank you.